Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de faire une présentation un peu courte parce que vous attendez la pause là impatiemment. Donc moi je vais vous présenter ce projet, ça correspond à un projet 2017 qui s'intitule donc Participation et pouvoir d'agir des classes populaires, enquête exploratoire auprès de centres sociaux et de conseils citoyens en région Centre-Val de Loire. Donc c'est un projet qui réunit trois laboratoires de la MSH Val de Loire, donc CITER, qui est le laboratoire dans lequel je me trouve. Moi, je suis maître de conférence en sociologie et je suis dans une des équipes de ce laboratoire qui est l'équipe COST. Et deux laboratoires à Orléans, sachant qu'il y en a un qui est sur Orléans et Tours, donc Valorem et le CEDET. On a aussi associé des collègues d'autres MSH, enfin d'autres laboratoires en fait à Lille et à Paris, ce qui implique du coup trois autres MSH comme partenaires du projet. Et on a également un partenaire non académique, qui est la Fédération régionale des centres sociaux. Donc là, comme c'est principalement sur la question des centres sociaux, on a en fait co-construit, si vous voulez, le projet avec cette Fédération régionale des centres sociaux. Donc c'est pas seulement un partenaire académique qu'on aurait mis comme ça un petit peu en plus, c'est vraiment un projet qui a été co-construit avec eux. Quoi vous dire d'autre sur l'équipe? C'est un projet qui est vraiment interdisciplinaire parce qu'on est des sociologues, des anthropologues, des géographes, des urbanistes, il y a des politistes aussi et des collègues en sciences de gestion. Donc vraiment un projet qui réunit plusieurs disciplines. Et donc ce que je vous propose, c'est vous présenter d'abord quelques éléments sur le projet en tant que tel, donc la problématique, les objectifs de recherche, la méthodologie. Et après, je vous dirai un peu ce que ça a donné en termes de résultats, sachant que c'est un projet qu'on lance tout juste, contrairement à des projets qui ont été présentés précédemment, qui étaient la poursuite de projets antérieurs. Là, c'est plutôt le financement de la MSH qui nous a permis d'amorcer une dynamique de recherche. Alors, sur la problématique, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de travaux de recherche en sciences sociales sur les questions de participation des habitants à l'action publique. C'est un champ de recherche, en fait, qui est interdisciplinaire et qui se développe depuis une quinzaine d'années, au fur et à mesure qu'on a des processus de participation qui se développent également au niveau des collectivités territoriales, notamment pour associer davantage les habitants à l'action publique. Au départ, la politique de la ville, dans les quartiers prioritaires, les quartiers populaires, a fait l'objet d'une attention particulière sur ces questions de participation, parce qu'il y avait un peu une injonction participative dans ces quartiers, hein, qui se développe à partir des années 1970-80. On va demander de plus en plus la participation des habitants dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc pour vous dire qu'il y a déjà pas mal de travaux de recherche sur ces questions de participation, et notre objectif, c'était de renouveler l'approche scientifique sur ces questions à partir de trois aspects, en développant trois aspects, donc c'est ceux-là en fait, en développant trois aspects qui avaient été assez peu abordés jusque-là dans les recherches. Donc le premier aspect, c'est de partir du pouvoir d'agir comme questionnement, sachant que donc, cette question du pouvoir d'agir ou de l'empowerment, l'empowerment, c'est le terme qui est plus souvent utilisé en anglais, qu'on a du mal à traduire en français, et il y a cette traduction par pouvoir d'agir qui est parfois choisie. La participation des habitants, elle a été revendiquée d'abord par les mouvements sociaux, si on prend le contexte français, à partir des années 60-70, le fait d'être associé davantage aux politiques qui nous concernent, aux projets qui nous concernent. Elle est ensuite institutionnalisée, donc davantage mis en place par les pouvoirs publics à partir des années 90, mais en France, elle est mise que récemment en lien avec ces questions d'empowerment. C'est-à-dire que cette notion d'empowerment, elle a une tradition en fait beaucoup plus ancienne dans les pays d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, et elle a émergé ces dernières années, c'est quelque chose d'assez récent en France, dans le débat à la fois public et scientifique, notamment à l'initiative de militants et de professionnels de l'intervention sociale qui cherchent à renouveler leurs pratiques, notamment dans les centres sociaux. Donc c'est, voilà, si vous voulez, une problématique assez récente dans le contexte français, même si ça peut avoir une tradition plus ancienne dans d'autres contextes. Alors c'est une notion qui est voilà, difficile à traduire, qui est aussi polysémique, qui articule à la fois la dimension du pouvoir et du processus d'apprentissage pour y accéder. Il y a plusieurs manières de définir l'empowerment ou le pouvoir d'agir. Et si je me base sur les travaux de Marie-Hélène Baquet et de Carole Buvener qui ont travaillé sur ces questions, ou de Marion Carrel, on peut repérer en fait trois dimensions dans l'empowerment, à la fois une dimension individuelle, une démarche d'autoréalisation et d'émancipation des individus, une dimension collective, le fait de reconnaître les groupes pour, et l'action collective pour pouvoir arriver à une émancipation, et puis une dimension politique de transformation sociale. Donc c'est le fait, si vous voulez, de prendre conscience d'une capacité d'agir individuelle et collective pour changer son environnement. Donc notre idée, en posant cette question la participation et du pouvoir d'agir, c'est de voir comment est-ce que les professionnels de l'intervention sociale et les habitants des quartiers populaires vont s'approprier ou pas cette notion de pouvoir d'agir, et quel effet ça a sur leur trajectoire et sur leur pratique. Et comment est-ce qu'ils l'appréhendent? Il y a plusieurs manières de la définir, comment est-ce qu'eux l'appréhendent. Comme terrain de recherche, donc, on a choisi de se focaliser sur les centres sociaux et les conseils citoyens, sachant que les travaux sur la participation en France se sont plutôt focalisés sur d'autres dispositifs de participation, des dispositifs institutionnels de participation comme les conseils de quartier par exemple, qui sont obligatoires dans toutes les grandes villes depuis 2002. Ou les budgets participatifs. Et ce que montrent ces travaux, moi j'ai travaillé aussi sur ce type de dispositif, ce que montrent ces recherches, c'est une grande difficulté en fait à faire venir certaines catégories de la population, notamment les jeunes, les femmes et les personnes qui sont issues des classes populaires et ou de l'immigration. Il y a en fait peu de chercheurs qui se sont intéressés à d'autres espaces comme les centres sociaux, où en fait ces catégories de la population vont s'investir de manière beaucoup plus importante, quotidienne, dans des activités qui ne sont pas forcément directement politiques, activités sociales, éducatives, de loisirs, mais qui peuvent avoir aussi une dimension politique si on prend le projet d'éducation populaire des centres sociaux. Et d'ailleurs, depuis 2013, quand je vous disais que c'était des réflexions qui se posent récemment en France, depuis 2013, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, c'est-à-dire la Fédération nationale des centres sociaux, a fait du développement du pouvoir d'agir l'un de ses principaux objectifs pour les années à venir. Donc, a voulu renouer, si vous voulez, un peu avec son projet d'éducation populaire, avec une dimension plus politique, en posant cette question du pouvoir d'agir comme l'un de ses principaux objectifs. Il faut voir que ça correspond aussi à une évolution des centres sociaux, qui sont devenus petit à petit plutôt des prestataires de services publics. Et donc, il y a la volonté, si vous voulez, de professionnels, de dire on veut reprendre un peu la dimension politique de notre projet. Donc, on a ce renouvellement au niveau des centres sociaux et qui vont rejoindre, en fait, des nouvelles initiatives de participation au niveau local, comme par exemple les conseils citoyens et les tables de quartier, qui sont dispositifs assez récents, 2014 pour les conseils citoyens, qui sont issus en partie d'un rapport qui a été élaboré par Marie-Hélène Baquet, donc une chercheure sur ces questions de participation, chercheure de sociologie urbaine, et Mohamed Meshmash, qui est un militant, et qui incitait en fait à mettre en place une politique d'empowerment à la française dans les quartiers politiques de la ville. Donc il nous a paru intéressant en fait de nous focaliser sur ces deux espaces. Parce que voilà, les centres sociaux, ça nous apparaît un observatoire à la fois sous-investi par les chercheurs qui travaillent sur la participation et en même temps vraiment intéressant pour travailler ces questions-là. Et puis pour les conseils citoyens, ces instances qui sont très récentes, qui sont en lien souvent avec les centres sociaux. Et il nous paraissait intéressant du coup de mettre en place des dispositifs de recherche dès maintenant pour pouvoir suivre les évolutions de ce type d'espace. Et finalement, dernier point, le fait de choisir comme population d'enquête principale s'interroger sur les classes populaires. Vous avez des classes populaires qui sont souvent absentes, les dispositifs de participation classiques comme les conseils de quartier, alors que souvent ce qu'on va chercher en mettant en place ce de dispositif, c'est d'inclure les exclus, c'est de retisser du lien social dans les quartiers populaires. Et on se rend compte que finalement, on a assez peu de personnes issues de ces classes populaires qui participent. Donc, d'où l'intérêt hein, de choisir d'analyser leurs pratiques dans les centres sociaux, parce que ce sont des espaces qui sont principalement investis par des personnes qui ont des professions, des revenus modestes, et souvent qui sont des femmes issues dans certains quartiers de l'immigration. Donc, en lien avec l'axe de la MSH sur ville et études urbaines, on a choisi de s'intéresser aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, en étudiant donc les interactions entre les centres sociaux et puis ces nouveaux dispositifs de participation. Et on a aussi choisi de travailler sur d'autres contextes, périurbains et ruraux, sachant que vous savez que la région Centre-Val-de-Loire, c'est une région où on a une population rurale assez importante, un 34%, alors que la moyenne est de 24%, 24,5% en France. Donc il paraissait intéressant d'intéresser aussi cette question des centres sociaux, de la participation et du pouvoir d'agir dans les centres sociaux en milieu rural. Milieu rural où les classes populaires sont majoritaires, bien qu'elles soient complètement invisibilisées dans le débat public et scientifique. C'est ce qu'ont mis en avant des chercheurs, par exemple, comme Julien Michy, qui travaille sur les classes populaires en milieu rural. Donc l'objectif, c'était aussi de montrer une autre approche des classes populaires, qui sont très souvent analysées en sciences sociales, notamment en sciences politiques, sous l'angle du désengagement. On va beaucoup s'intéresser à l'abstention qui touche les classes populaires, un désintérêt pour la politique, au vote protestataire. Et ce qu'on veut montrer, c'est que si on s'intéresse à d'autres formes d'engagement, qui sont peut-être moins des formes d'engagement politique institutionnelle ou classique, on peut avoir une autre approche de ces classes populaires. Donc là, on s'inscrit, si vous voulez, dans toute une série de travaux en sociologie. On a un renouvellement des études sur les classes populaires en sociologie qui interroge aussi cette notion de classe populaire. Et donc, c'est un peu notre idée à travers ce projet. Donc ça, c'est, si vous voulez, pour le cadre problématique général. Après, on a deux objectifs principaux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'analyser les interprétations, les modalités de mise en œuvre de ce projet de développement du pouvoir d'agir dans les centres sociaux et les conseils citoyens, et voir les effets, en s'interrogeant d'abord sur les professionnels de l'intervention sociale, donc le pouvoir d'agir des professionnels qui cherchent à récupérer un peu un rôle plus politique, donc interroger la reconfiguration de leur rôle, de leur posture, de leur savoir et savoir-faire, avec l'émergence de cette notion. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'ils s'approprient cette question du pouvoir d'agir, et aussi des tensions que ça peut créer avec leur position. Vous savez que les centres sociaux, ils sont principalement financés par les pouvoirs publics. Donc, quand l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, créer davantage de conflits et d'actions collectives, et qu'on est financé par des pouvoirs publics, bon, bah, ça peut mettre les professionnels un petit peu en tension quand même. Donc, comment est-ce qu'on peut impulser déjà ce pouvoir d'agir? Alors que ça ne vient pas forcément d'une demande des habitants, hein, au départ, ça vient plus d'une réflexion des professionnels sur leurs propres pratiques et leurs limites. Donc comment impulser dans ce cadre-là une démarche de pouvoir d'agir, et en quoi leurs pratiques professionnelles, leurs relations avec les pouvoirs publics peuvent être modifiées, et quelles questions ça peut poser. Et puis le deuxième axe, en fait, c'est de voir aussi ce que les effets que ça peut avoir, cette politique du pouvoir d'agir, sur les habitants. Sur donc les usagers, bénévoles des centres sociaux, participants des conseils citoyens. Est-ce que, à la fois, c'est voir un peu l'appropriation de cette question autour du pouvoir d'agir, mais aussi les tensions, les résistances qu'on peut observer. Il y a des gens qui vont dans les centres sociaux pour avoir un espace de convivialité. On observe, par exemple, des espaces rencontres dans ces centres sociaux où des femmes se réunissent une fois par semaine, elles n'ont pas forcément envie d'aller au-delà d'un espace de rencontre, de discussion, de convivialité, de s'impliquer dans des choses qui seraient plus de l'action collective, protestataire, ou donc il peut y avoir un certain nombre de résistance à ce niveau-là. Et donc les questions, c'est de voir, bah, est-ce que les habitants vont porter des initiatives individuelles ou collectives dans le cadre des centres sociaux ou de leur quartier? Est-ce qu'ils s'investissent ou pas dans ces conseils citoyens? Et puis, est-ce qu'on peut repérer dans leur trajectoire des effets de politisation, au sens où on aurait un changement de leur représentation du monde social, représentation aussi de la politique, de l'action collective? Est-ce qu'on voit des changements ou pas? Donc, beaucoup de questions. Et pour vous donner un petit idée de d'un point de vue méthodologique, en fait, l'enquête porte sur une dizaine de territoires. Donc, dans la région, dans 4 des 5 départements de la région, on a donc à la fois des quartiers politiques de la ville, des deux grandes agglomérations, donc des villes-centres et puis de villes en périphérie de ces agglomérations. Donc on a La Source à Orléans et Pont-Bordeaux, un quartier de Saint-Jean-de-Bray. À un niveau de Tours, donc on a le Sanitas à Tours et La Ravière et la Vallée Violette à Joué-les-Tours. Ensuite, on a travaillé sur des villes en périphérie, des villes moyennes. C'est les cas de Bourges, de Châteauroux et de Vierzon. Et on a également des plus petites villes, donc soit en périurbain, proche d'une ville moyenne, c'est le cas de Vineuil, près de Blois, ou des villes en milieu rural, donc les cas de Chinon et de Leblanc dans l'Ain. Donc une diversité. On a choisi ces sites à la fois en fonction des dynamiques des structures locales, par exemple voir si c'était des centres sociaux qui étaient associatifs aux municipaux, parce que ça joue pas mal sur ce qu'on va mettre en place, s'ils étaient fédérés ou non, et puis sur la diversité des situations à la fois sociales et territoriales, avoir à la fois plutôt des contextes urbains et périurbains et ruraux, des quartiers centraux et périphériques. Donc on a voulu avoir une diversité, si vous voulez, de situations, sachant qu'on a une méthodologie de recherche qui est qualitative. Donc on fait beaucoup d'observations de terrain. Donc dans les centres sociaux, c'est observer des espaces d'activités quotidiennes dans les centres sociaux. Ça peut être des formations aussi sur cette question de pouvoir d'agir. Ça peut être des réunions de conseils citoyens. Ça peut être aussi des activités associatives qui sont en lien avec le centre social, tout en étant en dehors du centre social. Et puis on mène aussi des entretiens avec les professionnels, donc les salariés des centres sociaux, mais aussi des bénévoles et des usagers, notamment des administrateurs, mais pas seulement, afin de connaître leur trajectoire. Je vous ai dit, l'intérêt, c'est de voir un peu les effets sur leur trajectoire et leur pratique, donc avoir aussi un peu leur ressenti. Et puis, c'est une recherche qui est collaborative. Hein, je vous disais, tout le questionnement, en fait, les terrains, la problématique, ça a été co-construit avec la Fédération régionale des centres sociaux. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des dispositifs un peu plus originaux d'enquête par rapport aux méthodes classiques d'enquête en sciences sociales, où on a appelé ça des ateliers de coproduction acteurs-chercheurs, où en fait on peut avoir des moments de discussion autour de différentes questions liées au projet entre l'équipe de chercheurs et les professionnels et bénévoles qui sont impliqués dans les centres sociaux et les conseils citoyens, avec l'idée que les acteurs de terrain puissent mobiliser leur connaissances très fines, hein, souvent qu'ils ont de leur territoire et de leur pratique, et que ça puisse alimenter la recherche, et puis que la recherche puisse aussi leur apporter quelque chose en termes de réflexivité sur leur pratique, réflexivité qu'ils ont déjà, mais qui peuvent avoir une autre dimension avec la recherche. Alors pour vous dire ce qu'a permis en fait le soutien de la MSH, ça a permis vraiment de constituer en fait une équipe de recherche, de structurer une équipe de recherche sur ces thématiques à l'échelle régionale, surtout, et un peu nationale. C'est quelque chose qu'on a commencé donc en septembre de l'an dernier, en réunissant une douzaine de chercheurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Il pouvait y avoir deux chercheurs, par exemple, qui avaient des collaborations, mais l'équipe en tant que telle, c'est vraiment une équipe qui ne travaillait pas ensemble, avec des liens entre les laboratoires de Tours et d'Orléans qui n'avaient pas sur ces questions. Donc vraiment une possibilité de créer une équipe sur ces questions. Et donc il s'est réuni, on a été assez intensif dans notre travail, on s'est réuni à plusieurs reprises depuis septembre, donc au cours de séminaires de recherche qu'on a eu en septembre, en janvier, en avril, on va en avoir un là le 19 juin. Donc les séminaires d'équipe de recherche, à la fois on est une douzaine de chercheurs, surtout des femmes, des membres de la Fédération régionale des centres sociaux. Donc on discute de comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on pense la recherche, comment évoluent les terrains, on échange sur toutes ces questions. On a aussi décidé de mettre en place des réunions entre chercheurs pour développer certains points épistémologiques ou plus théoriques. Donc ça, on a commencé avec une réunion la semaine dernière. Et puis on a également notre premier atelier de coproduction acteurs-chercheurs qui aura lieu ce jeudi sur la question du centre social comme lieu de transformation sociale. Sachant que la réunion des chercheurs, c'était sur comment analyser le pouvoir d'agir et ses effets, parce que ça pose un certain nombre de questions. Donc en fait, ça nous a permis de, bah, d'avancer sur vraiment avancer sur l'organisation de l'enquête. Donc on a, par exemple, les terrains que je vous ai présentés, on ne les avait pas définis de cette manière qu'on avait présenté le projet à la MSH, donc de réfléchir sur quel terrain travailler, d'élaborer une grille d'analyse commune, des questions de recherche transversales, et puis de lancer l'enquête de terrain sur les différents sites. Donc c'est, l'enquête est lancée. On a des premiers éléments, si vous voulez, pour donner quelques premiers éléments de contenu. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a une appropriation très diversifiée de cette question du pouvoir d'agir en fonction des centres sociaux. Au départ, c'est vraiment... C'est un peu le paradoxe, c'est que nous, des fois, sur certains terrains, on a l'impression que ça vient un peu des chercheurs, alors qu'au départ, c'est vraiment quelque chose qui a émergé des centres sociaux, mais pas forcément de tous les centres sociaux. Et la région Centre-Val-de-Loire n'est pas forcément une région où cette question a été posée de manière très, très forte. C'est plutôt émergé au niveau de Rhône-Alpes. Donc, c'est, si vous voulez, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est quelque chose qui est porté par la Fédération nationale des centres sociaux, la Fédération régionale, mais ensuite, en fonction des centres sociaux qu'on peut, sur lesquels on peut travailler, ça dépend beaucoup de la trajectoire des personnes qui vont s'y investir. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on a une conception plutôt individuelle du pouvoir d'agir. Donc on insiste beaucoup sur cette question de prise de conscience, profiter de faire des choses, de s'émanciper comme individu, mais la dimension plus collective ou politique, elle n'est pas forcément très, très développée. Et souvent, un autre paradoxe qu'on peut observer, c'est qu'on observe souvent un évitement du conflit et des questions politiques dans ces centres sociaux, alors que l'objectif des professionnels qui voulaient remettre cette question du pouvoir d'agir comme priorité, c'était de dire bah, on veut reprendre la dimension politique de notre travail. Et on observe plutôt un évitement de ces questions. On a également fait des portraits de territoire avec le financement qu'on a eu de la MSH. C'est-à-dire que les 10 sites sur lesquels on travaille, on a pu faire un cadrage statistique, les données de l'INSEE notamment, des portraits de territoire assez développés. Et puis, surtout, en fait, l'un des objectifs de la MSH, souvent, c'est impulser voilà, pour lancer des équipes et puis à répondre à d'autres appels à projets qui nous permettent de faire des recherches de plus grande ampleur. Et il y a eu juste après un appel à projet de la région, des projets d'intérêt académique. Et donc, on a obtenu cet appel à projet. Donc, on a maintenant le projet qui est financé pendant 2 ans à hauteur de plus de 100 000 euros. Donc, ce qui nous permet vraiment de mener les recherches, les enquêtes de terrain et de mettre en place, voilà, pour vous dire, au niveau des suites envisagées, ce qu'on prévoit, c'est une journée d'études à mi-parcours, donc en début d'année prochaine, qui permettra de présenter premiers résultats, on va dire, des enquêtes de terrain, d'échanger sur ces questions. On prévoit un colloque international en l'année suivante et bien sûr des publications pour rendre compte de ce travail, sachant que l'idée après ça serait de voir comment donner une dimension nationale plus importante et pourquoi pas développer des comparaisons internationales. Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'Espagne par exemple, ça pourrait être intéressant voilà, de voir comment cette question elle est posée différemment en fonction des contextes nationaux. Je vais m'arrêter là. Pardon.